Ok, donc je vous disais, on reprend à la fin du chapitre, à la fin du dernier cours. On a déjà fait 4 cours sur le chapitre 41. On a expliqué la notion que chaque personne doit avoir une double relation avec Dieu, relation de crainte et relation d'amour. Et on avait terminé avec cet exemple, l'exemple du fils et de l'esclave. On avait expliqué que chacun de nous a une double relation avec Akadosh Baruch Hu, comme on le dit d'ailleurs dans les tefillot de Rosh Hashanah et Kippour, Im Kebanim, Im Ka'avadim. Tantôt, on est considéré comme les enfants de Dieu, tantôt, nous sommes considérés comme les serviteurs de Dieu. Quelle est la différence entre un fils et un serviteur? C'est que le fils, il va s'occuper de son père par amour. Et dès qu'il n'aime pas, dès qu'il n'a pas envie, ben il ne fait pas. C'est tout. Ça veut dire que la qualité qu'a le fils, c'est que ce qu'il le fait, il le fait par amour. Alors que d'un autre côté, la qualité que va avoir l'esclave, le serviteur, peut-être que le serviteur, il n'aura pas le même amour que le fils, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais d'un autre côté, la qualité que va avoir un serviteur, c'est que lui, il bosse tout le temps, même quand ça ne l'intéresse pas. Et si vous voulez, dans la relation que nous avons avec Dieu, on doit avoir ces deux aspects. Ça veut dire, d'un côté, on doit kiffer servir Dieu, comme un fils kiffe faire plaisir à son père. Mais d'un autre côté, on doit avoir une relation avec Dieu comme un esclave, dans le sens que l'esclave, quand il se lève le matin, même s'il se dit, oh là là, quelle journée galère, ça me prend la tête, j'ai pas la force, aujourd'hui j'ai envie de rien faire, aujourd'hui je bulle, d'accord? Ça marche pas, l'esclave peut pas réfléchir comme ça, il est obligé de travailler. Et ben, de la même façon, dans la relation qu'un juif a avec Akadosh Baruch Hu, il y a aussi cette notion que je suis serviteur de Dieu. Et que même si ça m'intéresse pas, même si ça me prend la tête, etc., ben, je dois le faire, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça c'est pour nous expliquer l'importance. Ça, c'est pour nous expliquer l'importance de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais rajouter un dernier point. Et après, on va passer, en fait, on est en bas de la page 237. C'est que le Mor HaZaken explique que si une personne a suivi le programme qu'on lui a donné dans les 4 derniers cours, ça veut dire qu'il va suivre toutes les réflexions qu'on lui a données. Réfléchir à quel point Dieu est grand. Réfléchir à quel point moi, je suis petit. Réfléchir au fait qu'avec Dieu qui est tellement grand et moi qui suis tellement petit... Avec tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a quand même décidé de me donner de l'importance et d'accorder de l'importance à ce que je fais. Quand je pense à ça, normalement, naturellement, je devrais avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dit l'Admor HaZaken, qu'est-ce qui se passe si une personne, il a fait tout ce qu'il fallait faire, mais concrètement, il sent rien. Il sent rien, ni dans son cœur, ni dans sa tête, il sent rien. Alors, là, il y a une question à se poser. Est-ce que un service de Dieu qui est fait sans sentiment, est-ce que ça s'appelle quand même un service de Dieu? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui va acheter un cadeau à sa femme. C'est possible ou c'est pas possible? Bon. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que vaut un cadeau sans sentiment? C'est-à-dire qu'il est parti au magasin, il a payé, tout ce qu'il fait, etc. Mais il n'a aucun sentiment. Ni dans la tête, ni dans le cœur. Qu'est-ce qu'il vaut, ce cadeau? Est-ce que ce cadeau a une valeur? Après, la femme, elle verra que du feu, hein, mais bon, c'est pas la question. La question n'est pas ce que la femme, elle pense. Bon, la femme, elle pense ce qu'elle pensera. La question est par rapport à l'homme. Qu'est-ce que ça vaut quand tu fais une action envers quelqu'un, mais que tu n'y es pas, t'es pas dedans? Alors évidemment, quand c'est une action qui vise à avoir une relation avec quelqu'un, et que la relation est hypocrite, on dit ton cadeau est hypocrite, ça marche pas. On fait pas des choses comme ça. On n'offre pas un cadeau à quelqu'un par routine. Un cadeau, c'est un événement exceptionnel. Si tu offres un cadeau par routine, c'est pas bon. D'accord? Je me rappelle une fois j'étais dans un magasin de fleurs pour acheter, j'étais encore jeune marié, et je suis parti pour acheter un bouquet à ma femme. Non, pas pour ça.
Un jeune marié.
Non, ça veut acheter là, regarder, comparer les fleurs, etc. Bon, et là, à un moment, je vois une grosse berline s'arrêter devant le fleuriste. Bon, alors je regarde, je dis, une grosse berline. Et je vois apparemment dans le siège arrière quelqu'un qui était assis qui donne une instruction à son chauffeur. Il lui dit prends un grand bouquet de fleurs. Bon, alors une vraie histoire, d'accord? Je sais pas pourquoi il a acheté beaucoup de fleurs. Apparemment, c'était pour sa femme. Alors, il lui dit... D'accord ? Alors, attendez, écoutez l'histoire. Alors, donc je vois, donc le gars, il rentre, tu vois, il est là. Et comme il a la carte dans la main, et son patron, il lui a dit, tu achètes, tu mets le paquet. Je me rappelle, il est rentré. Il a dit, venez-moi, 50 roses de ça. Enfin, il a fait un bouquet, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Et tout de suite, hein, c'est-à-dire le fleuriste, dès que le gars il est rentré, j'existais plus, tu vois.
Un bouquet à 100 balles, ah oui.
Ah ouais, le fleuriste, attendez. Après, j'entends la discussion. J'entends le gars, le chauffeur, qui va voir son patron. Et il lui dit, dis-moi, on va mettre une carte, mais qu'est-ce qu'on met dans la carte? Il lui dit, je sais pas, raconte-lui un truc. Dis-lui, je t'aime, je sais pas, raconte-lui ce que tu veux. Là, ça m'a choqué grave.
Ah ouais, c'est mytho.
C'est-à-dire, le gars, tu comprends, il n'a rien à faire.
C'est un bouquet à 2000 euros.
Raconte-lui ce que tu veux, raconte-lui ta vie. Et ça m'a choqué. J'ai dit, attends, le gars, il est là, il vient, ça veut dire que, bon, il a fait un voyage, je sais pas de où il revient, il veut afficher un bouquet, il n'en a rien à faire. Il s'en fiche du bouquet. Il n'en a rien à faire, il n'est pas dedans. Alors, je reprends ma question. Si quelqu'un il a une relation avec HM, mais que dans sa relation il n'y a pas de sentiment, il n'en a rien à faire. Est-ce que quelque part c'est pas une relation qui n'est pas normale? À la réponse de l'Admor HaZaken, écoutez bien, l'Admor HaZaken répond, il dit c'est pas grave. Il dit quand tu as une relation avec HM, même si tu n'as pas réussi à sortir dans ton cœur, même si tu sens que tu n'es pas là, le fait même d'essayer est très important. Et là pour illustrer ça, je vais raconter une histoire de la Gemara. Qu'on va raconter ici. On a une histoire de la Gemara, une histoire que l'Admor HaZaken va nous ramener de la Gemara, pour nous montrer à quel point, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme dans une relation humaine. Dans une relation humaine, quand tu sens pas, il y a un problème. Faut réfléchir pourquoi. Mais dans une relation avec Kadosh Baruch Hu, le fait même de chercher à vouloir sentir, c'est déjà appelé quelque part de la crainte. Et il va illustrer ça avec une histoire. Donc je suis au milieu de la page 237. Chez Zon Nikret Ira, Kemo Shamar, Rabban Yochanan Ben Zakkai et les Talmidav, comme Rabban Yochanan Ben Zakkai a dit à ses élèves, Yehi Ratson, Sheyehi Mora Shemaim Alechin Kemora Basar Vadam, que Dieu fasse que vous ayez la crainte de Dieu comme vous ayez la crainte des hommes. Alors il faut que je raconte cette histoire. Donc Marel raconte la chose suivante. Elle raconte que Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a vécu 120 ans. J'en ai parlé d'ailleurs Shabbat. Pour ceux qui étaient là Shabbat après-midi, on a parlé des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. D'accord ? Donc ce Rabban Yochanan ben Zakkai est arrivé le jour de sa mort, 120 ans. Lui aussi, il a eu 120 ans tout rond, comme Moïse. Le jour de sa mort, il était parfaitement lucide. Tous ses élèves étaient autour de lui. Et ses élèves ont senti qu'il y avait un moment de proximité avec le maître. Alors ils lui ont dit, Rabbi Barcheni, Barchenu, béninou, béninou, donne-nous une bracha. Et qu'est-ce qu'il leur a donné comme bracha? Il leur a dit, je vous donne la bracha, que vous craigniez Dieu comme vous craignez les hommes. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas n'importe quel élève à qui il parle. C'est les élèves de très très haute pointure, c'est les élèves qu'il a formés pendant des dizaines d'années. Et entendre une phrase comme ça, que vous ayez peur des dieux comme vous avez peur d'un homme, c'était une phrase qui était un peu choquante. Donc les élèves, ils ont arrêté leur maître, ils ont dit, mais Rabbi, Atkan,
c'est tout?
C'était le mot de la fin, tu vois. Après plusieurs décennies d'enseignement, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, que Dieu fasse que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. Il dit, mais Rabbi Atkan, ça c'est le début, ça, mais attends, on a un parcours quand même avec eux. Qu'est-ce qu'une bracha comme ça? C'est quoi cette bracha? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais bien sûr. Il leur a dit, regardez. Lorsqu'une personne fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait une avéra, il a transmis une avéra. Il dit, j'espère que personne ne m'a vu. Maintenant, réfléchissons une seconde à l'absurdité de ce qu'il vient de dire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? T'as fait une avéra, Dieu il t'a regardé. Mais ça, ça t'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé, j'ai fait l'avéra. Mais qu'est-ce que je dis? J'espère que personne ne m'a vu. Après, chacun avec sa avérote, hein. D'accord. C'est une avéra que tu considères qui n'est pas acceptable par rapport à ton rang, par rapport à ton statut, par rapport à la personne que tu es. D'accord? Et si tu l'as transgressé, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'espère que personne ne m'a vu. Pourquoi t'espères que personne t'a vu? Ça veut dire que finalement, le regard des hommes est plus important à tes yeux que le regard de Dieu. Ben oui. Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai dit à ses élèves, lorsque je vous donne le souhait, lorsque je vous dis que Dieu fasse, Yehi Ratzon, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes, c'est une bracha extraordinaire. Parce que si on arrivait à craindre Dieu et sentir que Dieu était présent, autant que je sens quelqu'un qui est présent devant moi, Mais jamais on n'aura fait une avéra. Jamais. D'accord. Donc ça, c'est ce que Rabban Yochanan Zakkai nous dit. Rabban Yochanan Zakkai explique la chose suivante. Il dit que quand on a une relation avec Akadosh Baruch Hu, le plus dur, c'est quoi? C'est d'essayer de penser à lui, d'essayer de réaliser qu'il est là. Parce que quand tu parles à un être humain, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est devant toi, tu le vois. Donc évidemment, t'as pas envie qu'il te voit en train de faire une bêtise. T'as pas, on n'aime pas qu'on nous voit en train de faire une bêtise. Et d'ailleurs, c'est grave quand on n'est plus dérangé par ça. Quand on n'est plus dérangé, c'est qu'on a dépassé un certain cap. Normalement, on n'aime pas qu'on nous voit en train de faire une bêtise. Quand je fais une bêtise, quelque chose que je considère être une bêtise, je n'ai pas envie qu'on me regarde. Et je suis gêné quand on me regarde. Mais est-ce que je suis gêné du regard de Dieu? Pourtant, Dieu me regarde plus que le copain. Est-ce que je suis gêné du regard de Dieu? Si j'étais vraiment gêné du regard de Dieu, est-ce que j'aurais fauté?
Non.
Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est plus gêné du regard des hommes que du regard de Dieu. Donc c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai est en train d'expliquer à ses élèves. Il leur dit, sachez que lorsque je vous souhaite d'avoir la crainte de Dieu comme la crainte des hommes, c'est une bracha extraordinaire, que très peu de gens arrivent à ce niveau dans leur vie. Que leur crainte de Dieu soit aussi concrète que la crainte d'un homme. C'est extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que dit l'Admor HaZaken, il dit, un juif qui est là, qui essaye de faire cette fila le matin, comme on a expliqué dans les cours précédents, et qui essaye de se poser des questions, de se dire comment Dieu est concret, comment Dieu est présent devant moi. Est-ce qu'on va réussir ou pas? J'en sais rien. Vous l'avez certainement essayé, ça fait 3 semaines qu'on fait le cours dessus. Peut-être ça marche des fois, peut-être des fois ça marche pas. Mais on a le mérite d'essayer. Et chaque fois que tu essayes, c'est un mérite extraordinaire. Parce que Dieu, normalement, si on ne fait pas d'effort, c'est pas quelque chose de concret pour nous. C'est abstrait. Et quand je fais un effort pour rendre concret ce qui est abstrait, c'est un effort monumental. Parce que il y a une petite voix au fond de moi qui me dit, mais bon, d'accord, mais arrête tes histoires, il n'y a rien devant toi là, que tu racontes des histoires. Il ne va rien se passer.
C'est comme,
tu vois, des fois les gens ils font une avéra, tu vois, et avant de faire l'avéra, tu vois, ils regardent le ciel, tu vois, du style. Non, du style, il a peur que ça va lui tomber dessus, tu vois. C'est pas moi. Ah non, mais c'est impressionnant. Il y a aussi des fois des gens, quand ils sont en train de faire une avéra, tu vois, ils vont se mettre dans un état second, du style, par exemple, il va mettre la main comme ça, tu vois, du style, tu m'as pas vu, tu vois.
Peut-être que voilà.
Bon.
C'est le
maritain. Hein? Non, justement. Là, on parle pour des gens comme nous. Il y a des tzadikim, eux, les tzadikim, ils ont pas de problème. Eux, ils sentent Dieu comme je sens un ami. Encore, ils ont pas de problème. Eux, ils arrivent même pas à fauter. Ils peuvent pas fauter. Comment tu veux qu'ils fautent? Imaginez qu'on ressentait Dieu comme je vois Serge devant moi. Serge, je ne peux pas voter devant toi. T'es un tzaddik. C'est lui en face de moi. Imaginez que j'imagine Dieu, que je le vois comme, physiquement. Jamais je peux voter. C'est le tzaddik. Nous, on n'est pas des tzaddikis. Mais au moins, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de réfléchir à quel point Dieu est concret et Dieu, ce n'est pas de l'abstrait. Et plus on réfléchit à ça, et plus progressivement, ça finit par entrer dans notre tête. Donc, on va lire dans les mots.
Il y a une notion aussi que quand on est petit, on a peur de ses parents.
Oui.
On se cache pour faire des bêtises, on ne veut pas qu'ils nous voient. Déjà, il y a une première notion. Après, quand on est grand,
vraiment.
Moi, je pense que le rôle des parents. Après, on essaye de le faire. Après, c'est pas toujours facile, mais je pense que le rôle des parents, c'est d'expliquer à leurs enfants que la vraie personne de qui on doit avoir peur, c'est Hachem.
Oui, mais
Moi, je l'ai répété des milliers de fois à mes enfants. Je dis, c'est pas de moi que tu dois avoir peur, c'est d'Hachem. Non, ça veut dire quand tu vois un enfant, tu vois, bon, il fait un truc, etc. Tu dis, mais moi, je sais rien, moi. Mais bien sûr que tu dois avoir peur de ton père, mais en vérité, la vraie personne de laquelle tu dois avoir peur, c'est Hachem. Mais ça prend du temps avant d'entrer. Ça prend une vie. Alors, on va lire dans les mots. Regardez. Kemosh, Shezo Nikret Ira, je suis au milieu de la page 237. Kemosh, Amar, Rabban, Yochanan, Ben Zakkai, il est Talmidav. Comme a dit Rabban, Yochanan, Ben Zakkai à ses élèves. Qu'est-ce qu'il leur a souhaité le jour de sa mort? Quel a été son testament? Quelle a été la bénédiction ultime qu'il leur a donnée? Yehi Ratson. Que ce soit la volonté de Dieu, que la crainte du ciel soit sur vous comme la crainte des hommes. Et lorsque les élèves lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais c'est tout? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ted ou, ce que je vous ai raconté. C'est le mot de la Gemara, ça. Ted ou, sachez, que chez Adam, Over, Avera, lorsqu'un homme transgresse une faute, Omer, il dit, chez Loir, Ani, Adam, j'espère que personne ne m'a vu. Ça veut dire que si on arrivait à ressentir Dieu, la crainte de Dieu, de façon aussi puissante qu'on ressent la crainte d'un homme, on n'aurait fait aucune avéra. Aucune. Aucune. Zéro avéra. C'est vrai. Mais ça veut dire que là, ce qui est intéressant, c'est que Rabban Yochanan Ben Zakkai nous donne une piste. Il nous dit, la piste pour avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'essayer d'avoir une proximité la plus grande possible avec Hachem. Pas d'imaginer Dieu comme quelqu'un qui est tout en haut, tu vois. C'est-à-dire, tu t'imagines tout en haut. Une fois, j'entends les deux enfants parler. Il y a dialogue, il me dit, moi, il est où Dieu? Il me dit, tu vois, tout en haut, tu vois le ciel là-bas? Ben, encore au fond, tout au fond, là-bas, il y a Dieu. Je dis, bon, allez, il y a celui-là. Il a envoyé Dieu. Il a envoyé aux oubliettes. Non, mais c'est vrai. Parce que si tu crois que tu es tout en haut et que moi je suis tout en bas, ok, lui reste tout en haut, moi je suis tout en bas. Si vraiment je fais l'imbécile, il va m'envoyer une météorite sur la tête, mais bon, sinon, il est en haut, je suis en bas.
C'est la source, il t'a indiqué la source.
D'accord ?
Mais c'est étonnant qu'il ait pensé à indiquer la source.
Ah oui, mais c'est justement.
Il t'a indiqué la voie.
C'est pour ça, c'est bon, on apprend ça aux enfants. Les enfants, quand on leur demande où est Dieu, où il te montre ? Le ciel. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants comme chanson au Gagne Israël, etc. On leur apprend Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois. En haut, en bas, à droite, à gauche, partout, c'est là où il se trouve. Vous la connaissez, hein?
Ma mère a pris dans un gars.
Eh bien, ça, c'est une chanson. Moi, quand j'étais petit, je l'ai apprise. Ça veut dire, c'est une chanson, mais ça rentre dans la tête. Ça veut dire, c'est pas Hachem, il est pas en haut. Il est partout. Il est partout. Et ça, c'est le message de Rabban Zakkai. Le message de Rabban Zakkai, c'est si on arrivait à ressentir Dieu de façon aussi puissante qu'un être humain, hein, jamais on n'aurait fait une avéra. D'accord ? Seulement, là, je vais toucher un point très important. Et plusieurs ont posé cette question la semaine dernière et la semaine d'avant. Finalement, quel est le but de tout ça ? Est-ce que le but, c'est d'avoir toujours la crainte d'Akadosh Baruch Hu comme la crainte du gendarme ? Et là, justement, vous avez donné un bon exemple. C'est l'exemple de la relation entre un père et un fils. Très bon exemple. Lorsque l'enfant est petit, quelle peur il a de ses parents? Il a la peur comme une peur du gendarme. D'accord? C'est quoi la peur du gendarme? Comment on va essayer de définir? C'est quoi la peur du gendarme? Ben, la peur du gendarme, c'est qu'en vérité, moi, le feu rouge, j'ai envie de le brûler. D'accord? Enfin, je parle pour moi, mais le feu rouge, j'ai envie de le brûler. Attention, j'ai l'auto-école à côté, mais il y a récupération aussi, donc. Hein, donc
on peut avec les deux. Il y a deux casquettes.
Pourquoi encore arriver à Milan qu'on brûle les feux?
Voilà. Donc.
Tu te fais chauffer,
c'est. Voilà. Donc, c'est quoi la peur du gendarme? On va définir ensemble avec Jackie, c'est quoi la peur du gendarme?
La peur de se chauffer.
D'accord? La peur du gendarme, c'est très simple. C'est que, moi, j'ai envie de dépasser la vitesse. Seulement, 2 secondes. Et moi, je pense, c'est pas seulement ça. Moi, je pense que je peux maîtriser le dépassement de vitesse. Je pense que j'ai une très bonne voiture, d'accord? J'ai une BMW série 7, ou j'ai une Ferrari, voilà, d'accord? Moi, je pense que moi, quand je roule à 260, c'est l'équivalent d'une Clio à 50. Je suis plus en sécurité. Ma voiture, elle a un monoxyde de carbone, et elle peut pas cracher. Donc moi, je me sens en sécurité. Donc, tout le monde me dit, pourquoi? Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu roules pas sur le périph' à 200 km/h? Parce que c'est interdit. Parce que si on m'attrape, je risque une suspension de permis immédiate. N'est-ce pas? 280.
Ouais. Retraite.
Ça, c'est retrait de permis, prison. D'accord? Donc, ça, c'est la peur du gendarme. C'est quoi la peur du gendarme? La peur du gendarme, ça veut dire qu'en vérité, moi, je pense quelque chose. Je suis pas d'accord avec le gendarme. Je suis pas d'accord. Profondément, je suis pas d'accord. Mais pourquoi je fais ce que le gendarme et ce que la loi me dit? Parce que j'ai peur de me faire arrêter et j'ai peur d'avoir une punition. Ça, c'est la peur, 2 secondes. Ça, c'est la peur du gendarme. Maintenant, ça, c'est la relation qu'un enfant va avoir par rapport à ses parents lorsqu'il est petit. Il a la peur du gendarme. Ça veut dire que il a peur de la punition. Mais après, j'espère en tout cas, plus l'enfant grandit et plus, à la place de la peur du gendarme, il y a une autre peur qui arrive. Une peur qui est beaucoup plus noble. D'accord? Qui est ce qu'on appelle, on va lire tout de suite, Yirat Boshet. C'est quoi Yirat Boshet? Yirat Boshet, c'est la crainte de la honte. C'est quoi la crainte de la honte? Alors on pourrait appeler ça aussi après crainte révérentielle. C'est quoi la crainte de la honte? Une fois par exemple, j'ai vu 2 jeunes en train de fumer. Leurs parents, je ne dirais pas c'est qui, leurs parents ne savaient pas qui fumait. Bon, le gosse, dès qu'il m'a vu, parce que bon, c'est un gosse, ça fait longtemps, ça fait quelques années, il m'a dit, je t'en prie, dis pas à mon père. D'abord, il a rougi tout de suite, évidemment. Bon, c'est normal, d'accord? Non. Alors. Alors, attends deux secondes. Tu dis, mais pourquoi il veut pas qu'on dise à son père? Pourquoi, attends, justement, pose-toi la question. Pourquoi tu veux pas, pourquoi il veut pas qu'on dise à son père? D'accord? Attendez, justement, attendez. Il y a deux options. Première option, c'est qu'il a pas envie de se prendre une trécha sur la tête quand il va rentrer. Ou trécha, ou une punition.
Oui.
D'accord? Ou voilà exactement, ou des cris, ou on va le priver de quelque chose. Ça c'est la peur du gendarme. Mais il y a un niveau plus grave que ça, plus fort que ça à mon avis. C'est pas qu'il a peur qu'on va le punir. À la limite, la punition ne le dérange pas. Le kiff qu'il a, il est plus important pour lui. Ça le dérange pas de miser pour avoir ce kiff. Ça le dérange pas. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'on appelle un risque calculé. Vous savez ce que c'est un risque calculé? Ça veut dire, moi je prends mon risque. Et qu'est-ce qu'il y a au pire? Je prends une claque alors. Vous le réussissez alors? Ben, il m'a donné une claque, et ben, pendant 10 minutes, j'aurai mal, après, ça a passé. Vous me donnez une punition, pas mal, j'aurai la punition, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, vient un niveau de crainte qui est beaucoup plus fort. C'est ce qu'on appelle la crainte de la honte. Je veux pas décevoir mon père. Voilà. J'ai pas peur de la punition qu'il va me faire. J'ai peur du regard de déception des yeux, la déception que je verrai dans les yeux de mon père lorsqu'il va prendre ça. Ça, c'est pire qu'une punition. Ça, c'est un niveau, ce qu'on appelle irat bochet. La crainte de la honte. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Le Zohar, quand il parle de ces deux craintes, la première crainte, il appelle la crainte d'en bas. Ça veut dire une crainte inférieure. Et la deuxième crainte, la crainte, pas de la punition, mais la crainte révérentielle, la crainte de la peur. Le Zohar appelle ça la crainte supérieure. Il y a la crainte inférieure, la crainte supérieure. C'est-à-dire que toute notre vie, on doit avoir la crainte de Dieu. La question, c'est quelle crainte on va avoir. Est-ce que je vais avoir la crainte du gendarme? Ou est-ce que je vais avoir, par rapport à Kadosh Baruch Hu, la crainte révérentielle? Je donne souvent cet exemple. C'est comme quand vous allez voir un tzaddik. Quand tu vas voir un tzaddik, les gens, tu leur demandes comment t'as senti. Ils sentent que le tzaddik, il aime, mais ils sentent qu'il y a la crainte. Pourquoi, de quoi t'as peur? T'as peur qu'il va te mettre une claque? T'as peur qu'il va te jeter par terre? De quoi t'as peur? Non, parce, c'est pas que t'as peur. C'est que quand tu passes devant lui, tu sens qu'il te scanne. Tu sens qu'il t'a passé le scanner et tu vois tout. Et donc, t'as honte. T'as honte parce que tu sais ce qu'il voit, ce qu'il y a dedans. T'as honte? Bien sûr que tu as honte. Mais c'est pas une crainte. C'est pas une crainte la peur du gendarme. Il va pas me mettre une amende. Il va pas me dire, ah, j'ai vu la faute tout à fait. À la limite, il le dira même pas.
Pas encore pire.
Mais j'ai peur de décevoir. C'est ce qu'on appelle ira'a, la crainte suprême. Ça veut dire que le niveau que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, d'avoir peur de Dieu comme on a peur d'un homme, ça c'est seulement le premier niveau. La crainte comme la peur du gendarme. La peur du regard extérieur. Mais après, il faut arriver à un niveau plus fort, qui est pas seulement la crainte du gendarme, mais la crainte révérentielle envers la Kadosh Baruch
Hu. Mais on a honte, finalement, on a déjà côté.
Oui, bien sûr. Mais je vais donner un exemple. Regarde, je vais donner un exemple. Par exemple, on a bientôt les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour qui vont arriver. Bon, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. D'accord? Moi, des loups, etc. Bon, très bien. On va faire ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, ça arrive, les attachés. Comment on va se sentir? Comment on se sent pendant le mois des loups et pendant Rosh Hashanah? Est-ce que on les appelle les jours redoutables d'ailleurs? Yamim Noraim, les jours redoutables. Maintenant, pourquoi j'appelle les jours redoutables? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ça s'appelle les jours redoutables parce que je sais que Dieu va tout décider et je sais que si je me range pas et si je fais pas de tchouva, mon année sera ratée. Voilà. C'est tout aussi simple que ça et je sais que quand Dieu veut me faire rater une année, il peut me le faire rater. Ça il peut le faire. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai peur. Donc, de quoi t'as peur? T'as peur du gendarme. T'as peur que le gendarme, il va pas être content, il va te punir. C'est un niveau, c'est très très bien d'avoir cette peur du gendarme. Mais la Mourazaka te dit, après un niveau, à un moment, il faut essayer de passer à la peur suivante. C'est pas la peur du gendarme. C'est le fait même que je sais que Dieu me regarde et que Dieu voit les fautes que j'ai faites, j'ai honte de ça. C'est une peur, j'ai honte de ça. J'ai honte de cette chose-là. Ce qu'il dit ici. Ça, c'est un niveau supérieur. Mais je pense qu'on peut tous arriver à ce niveau-là. Regardez, si on est capable d'arriver à ce niveau-là avec son père. Par exemple, tous ceux qui ont leurs parents, Baruch Hashem encore leurs parents en vie, en bonne santé. D'accord? Et même ceux qui sont dans le monde de la vérité. C'est encore plus qu'on est dans le monde de la vérité. Quand on est à un âge où on est déjà marié, on a des enfants, il n'y a pas cette notion de peur d'un père. Qu'est-ce qui reste comme peur? T'as pas envie de décevoir. Ça, c'est important. Ça reste toute la vie, ça. Ça reste toute la vie. Quand t'as fait une gaffe et que tu sens que t'as pas fait quelque chose comme il fallait le faire, t'as pas envie de décevoir. Et ça, c'est toute la vie, ça. Oui, allez-y. Et puis d'ailleurs, mesdames.
Allez-y, Joseph.
Joseph.
Là, ce que tu dis, c'est que très souvent, on se met hors la loi
pour se faire rattraper par la loi.
Non,
quand tu te meurs la loi, c'est que inconsciemment tu te fais rattraper.
Moi, je saute pas du toit en me disant il y aura un matelas peut-être en bas.
Parce que parfois tu peux imaginer qu'il n'y a pas de loi.
Non.
Que tu vis sans loi.
Je suis pas d'accord.
Parce que quand tu te meurs la loi, pourquoi tu te meurs la loi ? Et quand tu roules à 300
à l'heure. Le gars il saute, il dit ah ben Dieu, je croyais que peut-être quelqu'un il allait mettre un matelas.
Quand tu roules à 300 à l'heure et que tu sais c'est 90, tu te mets par la loi là, tu te meurs la loi.
Je meurs la loi.
Donc qu'est-ce que tu fais là ? Là, nous, on va dire...
Non, mais c'est un risque calculé.
Non, c'est un mec qui roule, qui se met à la loi, parce que lui, il a envie de se faire rattraper par la loi, parce que peut-être à la maison, il n'y a pas de loi.
Demandez
il
n'y a à
pas
Serge.
De loi dans la maison.
Regardez, on va demander à Serge. Imagine-toi, Serge, t'es au bord d'une Ferrari de moins, en gros.
488.
Et t'es dans un endroit où il n'y a pas de gendarmes. C'est écrit 80, mais il ne va rien se passer.
T'as pas roulé plus vite.
Ah, combien tu vas rouler?
Non, mais j'aurais fait 80, j'aurais
pas été à la loi.
Non, mais il y a pas de, c'est un endroit où il n'y a pas de police. Le régime s'est effondré, il n'y a plus rien. Il n'y a pas, t'es en Afrique, un truc comme ça, République bananière, effondré, il n'y a rien.
T'es sûr que l'autoroute est en bas?
Bonne bananière, des mauvaises routes. Pourquoi tu transgresses la loi? Pourquoi tu la
transgresses?
Qui est voix, qui est flic ou pas flic, ne transgresses pas la loi, il y a des lois. Elles ont été faites pour ça, pour être respectées. Respecte-la.
Tu as raison, Joseph. Ouais, comme contrarié.
Pour respecter la loi. Qui a un flic ou il n'y a pas de flic, que tu sois dans le désert ou n'importe où. C'est marqué tel, tu respectes. Maintenant, dès lors que tu ne respectes pas, là, tu te mets en danger d'être attrapé. Et tu es en danger d'être regardé. Et toi, tu dis, oh là, j'ai fait une bêtise. Quand tu te fais attraper, tu dis, oh là, j'ai fait une bêtise.
Ah oui. Joseph, il faut écouter le placier.
Le placier,
il a dit là, on bouge pas la barrière.
Quand c'est 2 mètres, exactement. C'est pas 2,50 mètres. Hein.
Et ça se négocie pas.
Ah oui.
Ah, tu négocies
pas négociable ça.
Avec le bon Dieu, tu négocies pas non plus. C'est comme.
Ok.
C'est ce qu'il dit là. Et c'est ce qu'il dit, on négocie pas là. C'est écrit là.
Ne répète pas ça. Et quand c'est le plus, tu t'engueules parce que t'es plus arrêté au feu rouge.
Quand tu t'es arrêté au feu.
Si tu t'arrêtes au feu rouge, tu te mets en prison.
J'en sais rien, parce que ça m'est jamais arrivé.
Ah,
mais
si, moi, ça m'est arrivé. Hein.
Feu, non, mais parce que je vous explique, lui, il connaît des pays où quand le flic, il t'arrête...
Ah non, il veut pas fuir.
Non, il tourne le passeport pour voir, voilà.
Ah oui, tu viens. Ah ouais, d'accord.
Il dit, il manque un papier, là.
Il prend un visa volant. Un visa volant, c'est tout. Il prend un visa volant. Il n'y a pas besoin d'aller.
Allez, on y va. Rac, cependant, on y va, Rabotaï. Nous sommes en bas de la page... Oh, pardon, en haut de la page maintenant, 238. Rak seulement. Sheir azo nikret ira tata av ira tret. La première crainte qu'on a dit, la crainte, la peur du gendarme, la crainte d'avoir peur de Dieu comme on a peur des hommes, ça, c'est une crainte qu'on appelle la crainte inférieure. Et la crainte de la faute, ce qui est très très bien déjà, attention, hein, parce que si on avait une crainte comme ça, on ferait pas de faute. Mais le but n'est pas d'en rester là. Ça veut dire que le but n'est pas d'avoir peur de Dieu toute sa vie comme avoir peur d'un gendarme. Non. Il faut aller plus loin. Il faut après un moment passer à la crainte supérieure. C'est quoi la crainte supérieure? Veiraïla ou Yere Bochet. La crainte supérieure est Yere Bochet. La crainte de la honte. La crainte de décevoir. D'ailleurs, au passage, vous savez, actuellement, dans l'actualité, on parle beaucoup de Jérusalem en ce moment, que Kadosh Baruch Hu fasse que tout se passe comme il faut, que cette escalade s'arrête très très rapidement. Toujours, il s'arrange pour, dès qu'on arrive les 9 jours, il s'arrange pour, d'accord? C'est bon, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais, vous savez que, d'où vient le mot Yerushalayim? C'est quoi le mot Yerushalayim? Yerushalayim, c'est composé de deux mots. Yir'a, Shalem. La crainte parfaite. Parce qu'on dit qu'à l'époque du temple, toute personne qui venait à Jérusalem, même si, bon, il faisait des voix et des draps, dès qu'il arrivait à Jérusalem, tout de suite, il se rangeait.
Dans la vie sérieuse.
Pourquoi? Deux choses. Parce que quand il était chez lui, quand il était à Tel Aviv ou je ne sais où, bon, t'as peur de Dieu parce que t'as peur qu'il va te faire rater tes affaires, etc. Mais tu sens pas qu'il est là, tu sens pas que ma machine est là et que t'as honte de lui. Mais on dit que dès qu'on arrivait à Jérusalem, juste on rentrait à Jérusalem, tout de suite, on commençait à avoir honte de nos fautes. Deuxième niveau. Mais tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait une telle doucha. Exactement comme... Enfin, exactement, c'est moins fort ce qu'on a aujourd'hui.
C'est comme aujourd'hui. C'est moins fort, mais c'est comme aujourd'hui.
Ah, je sais pas, ça serait bien que ce soit comme ça aujourd'hui.
Non, mais je te dis, c'est comme ça.
Ah bah, aujourd'hui, ils te font la gay pride, tu préserves. C'est vrai.
Et quel gay pride?
Et attention, faut qu'on dise pas qu'à Jérusalem, on n'a pas fait, chas v'shalom.
Bon,
on rappelle pas de ces choses-là pendant une période comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi... Hein?
Ça fait peur.
On est en exil, qu'est-ce que vous voulez? en exil. C'est quoi Yerushalayim? Yerushalayim, c'est Yir'a Shalem. On dit que même les gens, même les non-juifs qui venaient à Jérusalem, dès qu'ils rentraient à Jérusalem, je parle de la vieille ville, dès qu'ils rentraient à Jérusalem, tout de suite, ils sentaient une crainte de Dieu. Mais c'est pas une crainte qu'il a peur qu'il y ait un météorite qui va lui tomber sur la tête. C'est, ils sentent, tout de suite, ils avaient honte de leur faute.
À l'époque du temple.
Allez. À l'époque du temple. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom, Yerushalayim, Yir'a Shalem. La perfection de la crainte. Ça veut dire, c'est la crainte de niveau numéro 2, directement. Aujourd'hui, on l'a pas, ça. Mais juste pour afin de s'imaginer qu'est-ce qu'on n'a pas quand on n'a pas le Beth Amikdash. Shabbat après-midi, j'ai posé la question, une question qui est un peu provocatrice, je l'admets. J'ai posé une question, et d'ailleurs, je l'ai reposée à quelques jeunes aussi cette semaine. J'ai posé la question, je dis, mais on dit qu'on est en deuil parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Bon. Et alors, ça n'a pas le Beth Amikdash. Ça nous manque.
Ouais.
Est-ce que le Beth Amikdash, il me manque plus que le steak que je ne veux pas manger?
C'est une question.
Imaginez, mercredi soir, vous avez envie d'une entrecôte. Grave. Attendez. Vous savez quoi, même maintenant, je vais vous créer une envie maintenant, là, parce que là, c'est bon, c'est trop tard, d'accord? Voilà, imaginez maintenant, là. Imaginez que vous avez une envie d'entrecôte. Maintenant. Ah, je suis à mince. C'est les 9 jours. D'accord.
Ah oui, 9 jours.
C'est les 9 jours. Attends, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as plus envie de l'entrecôte ou du Beth Amikdash? Alors quoi, c'est ça? C'est comme ça qu'on définit les 9 jours? C'est ça les 9 jours? On mange pas d'entrecôte, c'est ça les 9 jours? On mange pas de viande? La semaine maigre, il est en blé. C'est maigre. Bon. Mais c'est ça le pshat. Le pshat, c'est qu'il faut se poser la question. C'est une question sérieuse que je pose. Tu dis que t'es en deuil pour le Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash te manque? Te manque chose dans ta vie? Tu t'es levé ce matin, t'as pensé. Je parle pour moi. Hein. Tu t'es levé ce matin, t'as pensé au Beth Amikdash. Tu sens que ta vie n'est pas complète quand t'as le Beth Amikdash. Tu sens que t'es pas tranquille. Tu sens que ça te manque quelque chose comme tu vas te sentir le matin de Shabbat quand t'as pas mangé.
Alors, justement.
Alors moi je vais vous dire, c'est pour ça qu'il faut expliquer ce qui nous manque. Il faut expliquer ce qui nous manque. Et une des choses qui nous manque, c'est quoi? C'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un endroit dans le monde dans lequel on voyait Dieu. Mais juste ça, c'est énorme. On voyait dans le sens sentir. Imagine-toi que tu fais une année, tu fais ce que tu veux dans une année, tu arrives dans un endroit. Quand tu arrives dans cet endroit, tu sens Dieu. Tout de suite, tu te ranges. Aujourd'hui, il est écrit qu'on a un petit peu de ça chez les tzadikim. Un petit peu. Quand on va chez les tzadikim, on sent ça. C'est-à-dire, quand tu vas, par exemple, tu vas voir le rabbi, peu importe l'état dans lequel tu étais 24 heures avant, tout de suite, tu sens que tu es happé. Tu sens que ça te recadre. Bon, très bien. Mais ça, c'est un mehen. Ça veut dire, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait des millions de personnes qui venaient et tout le monde était recadré comme ça. Extraordinaire, c'est énorme. On se sentait à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire.
Il y avait quelque chose de physique ou il n'y avait pas une histoire de nuée, de fumée?
Non, mais sans arriver à ça. Tout de suite, on sentait. Tout de suite, ça te prenait. Peu importe ce que tu avais fait, ça te prenait tout de suite. Ça te prenait et ça avait un impact jusqu'à la prochaine fête. Ça veut dire, on dit même, à tel point c'était fort, on dit qu'après, il fallait se battre avec soi-même pour faire des avérotes, tu vois. C'est-à-dire qu'après, bon, le Yitzhara, il revient à la charge, évidemment, tu rentres chez toi, il revient à la charge. Mais il y a un impact tellement fort que tu devais faire presque Messirut Nefesh, abnégation pour fauter, tu vois. Il fallait se faire violence pour fauter. C'est tellement, et le gars, il était, après, bon, le Yitzhara, il dit, mais attends, quand même, la Vera, bon, ça va, hein, bon, tu vas pas faire rabbin maintenant. Et il dit, bon, ça va, d'accord, allez, hop, on replonge, on renforce à faire la Vera. C'était comme ça. C'est énorme. Quand on réfléchit, c'est énorme. Aussi, quand on parle de, puisque j'ai ouvert la parenthèse. Quand on parle de Mashiach, quand on parle de Beth Amikdash, pose la question des gens, je dis, mais est-ce que tu attends Mashiach? Non, on n'attend pas. Pourquoi il attend pas Mashiach? Parce qu'il sait pas ce que c'est.
Ah oui, raison.
Pourquoi tu veux que ça l'intéresse? Tu lui dis iPhone 8, tu sais ce que c'est? Parce qu'on lui dit, c'est les 10 ans de l'iPhone, et Steve Jobs, depuis le paradis, il a envoyé le message, comment faire le nouvel iPhone, il va y croire. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein? C'est évident. Mashiach, c'est quoi? Alors, il faut expliquer, il faut parler. Il faut parler. Il faut dire, regarde, pose-toi une question.
Même si on parle, c'est de l'abstrait, c'est compliqué.
Non, c'est pas de l'abstrait, justement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous montrais comment c'est pas du tout de l'abstrait, comment, normalement, on devrait être convaincu que le monde dans lequel on vit n'est pas normal. Je vous donne un exemple. On apprend, par exemple, c'est plus ce qu'on voit, tu vois. Imaginez, par exemple, on vous dit, monsieur un tel, il est tombé malade. Dieu préserve. 40 ans. Il est tombé malade. Bon. Ça te choque. Tu dis, ah, il est jeune, il était jeune, etc. et tout, bon. Tu acceptes. Tu dis, bon, ben, il est comme ça, il est malade. Après, on te dit, monsieur un tel, il est maintenant gravement malade. Alors, ça te choque encore plus, parce que tu croyais qu'il allait peut-être s'en sortir. Malheureusement, il tombe gravement malade. Bon, au début, ça te choque, après, tu dis, ben, c'est comme ça. Après, on te dit, monsieur un tel, d'accord, un goy, monsieur un tel, il est mort. 40 ans. Ça te choque encore plus. Tu dis, attends, c'est pas Stam qu'il est malade, c'est pas Stam qu'il est gravement malade, il est mort. Le pauvre. Le pauvre. Bon. Ça te fait de la peine pendant quelques heures, après qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est comme ça. Il faut continuer, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi d'où vient c'est comme ça là? Pourquoi c'est comme ça?
La vie. Tu peux t'arrêter à ça, tu peux t'arrêter.
Non, mais c'est pas la vie. Ça, c'est l'exil qui nous pousse à parler comme ça. Tu entends, il y a un maboule, tu entends par exemple, voilà, tu entends aujourd'hui, il y a l'ONU, ils sont rassemblés, je sais pas quoi, ce qu'ils ont raconté, que presque ils sont en train de dire bientôt que Jérusalem, c'est plus palestinien que juif. C'est presque là, d'accord? Oui, bien sûr.
L'UNESCO,
voilà, exactement. Alors, moi, je vais vous dire, première fois que t'entends ça, t'es choqué. Après, deuxième fois, troisième fois, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est comme ça. Samedi soir, Motzei Shabbat, j'ai entendu Shabbat qu'il y avait écrit ce qui s'est passé en Israël. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, je veux voir ce qui s'est passé en Israël. D'accord? Moi, j'ai pris, je sais pas, il y avait dans la page d'accueil, il y avait Le Monde. J'ouvre, je l'ai montré à Yves dimanche matin. J'ouvre le journal, Le Monde. C'est sérieux quand même, c'est pas des rigolos. C'est quand même une référence.
Oui, c'est pas, non?
J'ouvre Le Monde et qu'est-ce que je vois? Ils ont fait un titre avec une formulation de phrase que celui qui lit, ma mâche, hein. J'ai dit, j'ai remis, fait de pas voir ça, Shavuatov. Ils t'ont fait une formulation de phrase, puis celui qui voit ça, que presque on doit s'excuser, qu'on a voulu mettre des portiques de sécurité à cause. À la fin, ils ont mis que les portiques, en fait, avaient été installés parce qu'il y avait trois policiers qui avaient été tués, d'accord. Mais ça, ils l'ont mis à la fin. Ils t'ont dit que Israël, bain de sang, escalade, trois pauvres Palestiniens tués, etc. Et tout. Quand tu vas. Exactement. Ah, mais c'est une folie. Je sais pas si vous voyez la folie. Non, mais là, regardez l'aberration. Ça veut dire qu'on est en train de leur reprocher d'avoir mis un portique de sécurité. En d'autres termes, celui qui n'est pas d'accord avec le portique de sécurité, ça veut dire, il dit, je veux faire entrer des armes sans problème.
Ah oui.
C'est ça ce qu'il veut dire, non? On est d'accord? Parce que si t'as rien à cacher, pourquoi t'es dérangé par un portique de sécurité? Moi, je vais au Cotel, il y a un portique, non? Pourquoi t'es dérangé? Seulement voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que nous, on n'a pas peur de dire qu'on veut pas portique de sécurité. Mais quand tu réfléchis à ça, d'accord? Tu t'imagines l'aberration que c'est? On le met au même niveau, mais c'est un truc de fou. Ça choque. Mais moi, je vais vous dire, ça choque parce que ça vient de se passer. Mais dans deux jours. Non, mais dans deux jours, attendez. À force qu'ils vont le répéter. Vous allez voir, ça va rentrer dans notre tête. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est un symptôme de la galoute. Dans la galoute, dans l'exil, on s'habitue à tout. On peut s'habituer à tout. Et tellement on s'habitue que ça devient normal. Et d'ailleurs, vous savez, il marche chez moi, Hitler. Il a joué avec ça. Comment il a fait pour prendre un peuple entier qui était des gens, je veux dire, émancipés en plus. D'accord? Émancipés, t'avais tout ce que tu veux. T'avais des rabbins, des avocats, des maires, des banquiers, etc. Comment tu prends des gens comme ça et tu les écrases, tu les traites comme des animaux?
Des gens qui étaient assimilés.
D'accord? Oui, non, mais attends, non, je comprends.
Ça veut dire qu'il n'avait plus rien à voir avec.
Oui, mais comment tu arrives à faire descendre l'humanité? Comment tu arrives à faire descendre des gens comme ça? Comment tu arrives à faire qu'ils se révoltent presque plus?
Cette bestialité.
Comment tu peux arriver à ça? C'est très simple. Les commentaires expliquent ça. D'ailleurs, Paro a fait la même chose. Progressivement. Jamais d'un coup. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Si directement il arrive en 37, il dit bon, allez hop, on vous prend, on vous met dans des wagons à bestiaux. Mais jamais ça sera passé. Non, pas du tout. Progressivement, on enlève ça. Après, on les enferme petit à petit. On dit bon, là, vous pouvez pas aller. Après, on dit bon, ben, juste, on va prendre les trains, on va aller là, etc. Progressivement. Mais ça, c'est la galoute, ça. La galoute, dans la galoute, on s'habitue à tout. Et ça, c'est le message que le rabbi nous a dit plusieurs fois. Il a dit, on ne doit pas accepter ce qui se passe. On ne doit pas accepter. On doit dire, il faut comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Les gens qui tombent malades, ce n'est pas normal. Les injustices, ce n'est pas normal. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais... Attendez. Déjà, comprendre qu'il y a un problème, c'est déjà la moitié de la solution.
On sait qu'il y a un problème.
Parce que l'entrecôte, on s'en fiche.
Bien sûr, on devrait descendre.
D'accord.
Montrer qu'on n'est pas d'accord.
Oui, mais encore une, Jacques, je vais vous expliquer. Le problème n'est pas, le problème n'est pas ce que la France.
Il faut pas être résigné.
Oui.
Il faut pas être résigné.
On n'est pas son boyau, on n'est pas face aux hommes, non. Non, mais c'est pas les hommes.
On a parlé de ça. On parle de ce qui se passe en Israël.
Des faits politiques. On très bien manifesté.
Mais regarde, moi j'ai vu des photos de France. J'ai vu des photos. J'entends parce qu'elle sera sûrement réutilisée. Cette photo que beaucoup de gens ont vue, sûrement sur cette famille où tu vois le sol rempli de sang.
Oui.
Mais je te montre ici la photo sur la famille Fogel. Les Palestiniens, ils ont repris cette photo,
ouais.
Ils l'ont réutilisée en disant voilà ce que font les Israéliens.
Après, ah oui, ça me semble laisser ça.
Mais oui, mais si tu dis rien, si tu acceptes, tu baisses.
Propagande, très fort.
Non, pas très fort, parce que tu peux prouver.
Ah oui, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut.
C'est pas une maison, mais c'est pas une maison palestinienne. Ils sont tellement bêtes, ils ont même pas enlevé les maisons. Donc tu vois, il faut descendre dans la rue. Quand tu vois des trucs sur Facebook,
descends.
Oui.
Non, mais il faut protester.
Non, mais Jacques, j'entends ce que vous dites. Mais le vrai problème n'est pas Daesh, n'est pas les médias, n'est pas les Arabes. Le vrai problème, c'est qu'on est en galoute. Et que des choses comme ça ne peuvent marcher que parce qu'on est en galoute. C'est-à-dire que si on n'était pas en galoute, si on n'était pas en exil, jamais on aurait eu des problèmes comme ça. Prenez la Bible, jamais on a eu des problèmes comme ça. Ça veut dire qu'on avait une relation très, très directe avec Dieu. Tu te comportes bien, tout va bien pour toi. Tu te comportes mal, tout va mal pour toi. Mais c'était automatique. On le voyait, comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on est en exil. Et ça, c'est l'exil. Et ça, il faut pas l'admettre, ça. Je me rappelle quand j'étais petit, je vous en ai parlé, ça fait quelques mois. Quand j'étais petit, il y avait une brochure que j'avais lue qui m'avait marqué. Le rabbi avait demandé d'éditer des brochures adressées aux enfants. Pour leur expliquer ce que c'est Mashiach. Et moi, je vous parle d'un souvenir que j'ai quand j'avais, cette brochure, j'ai dû la lire quand j'avais peut-être 10 ans. Elle m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvé, ça fait quelques mois, je l'ai retrouvé comme ça dans des classeurs. J'étais heureux de l'avoir retrouvé parce que je me rappelais cette brochure et je voulais avoir la main dessus. Alors je vous raconte. Cette brochure, qui était une brochure éditée en toutes les langues parlées par les juifs, quoi. D'accord? Cette brochure, c'était comme ça une brochure A4. D'accord? Une brochure plus avec quelques feuilles, comme ça, en couleur. À l'époque, la couleur, bon, c'était d'accord? Et, t'avais un gros titre.
C'est pas vieux non plus.
Hein, t'avais un gros titre. C'était écrit Imagine, 3 points de suspension. Imagine. Tu vois déjà la brochure, Imagine. Bon. Et on te voit dans la brochure, on te montre des nuages. Tu vois, t'as un gosse, tu vois ça, tu dis Imagine des nuages. Bon. Tu ouvres. Et c'est une BD à l'intérieur. On te raconte une histoire. On te raconte comment, voilà, il y a quelqu'un qui était malade, et on te raconte comment, dès que Mashiach arrive, ce bonhomme qui était malade et qu'on a accepté sa maladie, il se réveille, il se lève, il est plus malade. Fini. Il y avait la maladie, il est parti. Et comme ça, il te reprend plein de scènes de la vie, des choses qui ont l'air normales, les ennemis, etc. À l'époque, c'était pas longtemps après, à l'époque de la guerre du Golfe. Donc il montrait, je me rappelle là-bas aussi, il montrait une pièce calfeutrée. C'est un stress pour un enfant, ça. Savoir que tu es dans une pièce, pourquoi j'en sais, qu'est-ce que je fais dans cette pièce? On dit parce qu'ils sont en train d'envoyer un missile, et peut-être ce missile y aura du gaz, donc peut-être on va mourir. Donc là, on se met pour essayer de réduire, tu vois, comme ça, peut-être on va pas mourir. Peut-être oui, peut-être non, on sait pas. Bon, voilà. Ça va dépendre d'où va tomber le missile. Tu sais, le stress que c'est pour un enfant, ça?
Pour un enfant.
Et même pour un adulte. Mais encore, non, mais je vais vous dire, encore pire pour un enfant. Parce que l'adulte, il arrive à calculer dans sa tête. Mais l'enfant, il peut pas calculer. Il calcule rien, l'enfant. L'enfant, il voit son père angoissé, il est angoissé, mais il sait même pas quelle est la gravité. Mais c'est pas normal, ça. Ça, c'est des situations qui ne sont pas normales. Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi on doit vivre dans la peur? Ce que je vais vous montrer par ici, c'est quoi? C'est que, en vérité, là je referme la parenthèse, parce qu'après on va revenir au cours, il ne faut pas admettre ce qui se passe. Mais quand je dis pas admettre, ce n'est pas spécialement, j'entends ce que vous dites Jacques, c'est important de scander, etc., de ne pas accepter. Mais quand je dis ne pas admettre, c'est même pas seulement pas admettre par rapport aux autres. C'est pas admettre déjà en nous-mêmes. Et c'est le plus dur, ça, parce qu'on finit par admettre, on se résigne. On dit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire?
Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Non, mais la question, non. La question n'est pas, la question n'est pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. La question, déjà, il faut comprendre que c'est pas normal. Le fait qu'on a compris que c'est pas normal, on peut parler après à Dieu différemment.
On a compris que c'est pas normal.
Non.
Les, comment ça s'appelle, les filles, ils sont blancs et les autres sont noirs.
Ah oui.
On voit que c'est pas normal.
Mais après un moment, on s'habitue. C'est comme ça.
On peut pas s'habituer, ça revient comme un coup.
Ah non, mais après, ça s'empire. Il y a la surenchère.
C'est horrible, on voit quelque chose qui arrive comme ça, on se dit non, c'est pas toi qui l'as envoyé, c'est lui qui
l'a envoyé.
C'est pas normal.
On est condamné à se justifier sans arrêt.
Mais justement, c'est pas normal.
Bon.
Eh ben, moi, ce que je dis, c'est que c'est ce que dit le rabbi. Le rabbi, il dit comme ça. Le rabbi, il dit, les gens n'arrivent pas à parler de Beth Amikdash. Beth Amikdash, Beth Amikdash. Il dit, mais le rabbi, il dit comme ça. Rabotai. Il dit, avant de parler de deuil de Beth Amikdash, il faut d'abord comprendre pourquoi on est en deuil. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut parler du Beth Amikdash. Et justement, je reviens à notre cours maintenant. Je voudrais parler de cette Yirah Shalem, de cette crainte parfaite qu'il y avait à Jérusalem. C'est la crainte révérentielle qu'il y avait ici.
Tant que tu n'étudies pas les textes, finalement, tu ne peux pas comprendre.
Ah, ben oui, bien sûr, évidemment, oui. Je suis d'accord à 100%. Ah oui?
La
seule façon de.
Les jeunes, tant qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils
font. Il faut étudier, il faut parler. Ok, on va continuer dans les moments. Alors, donc, rappelons-nous, Serge, combien de craintes il y a? Il y a la crainte inférieure, la crainte supérieure. Rappelle-nous, c'est quoi la crainte inférieure?
La peur du gendarme.
Ah, monsieur, Serge nous fait un rappel, là, du cours. Alors, vas-y.
La peur du gendarme.
La peur du gendarme, donc, c'est quoi la peur du gendarme?
La peur d'avoir une amende.
Voilà.
Une punition. Et la peur, après, la crainte supérieure, c'est la honte, plutôt.
La honte. C'est quoi la honte?
La peur de décevoir.
La crainte que j'ai pas envie de décevoir. Mmh. Très bien. Ok. Et donc, nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on doit s'efforcer d'avoir ces deux types de relations. Mmh. D'abord, une crainte du gendarme, effectivement. Mais après, avec le temps, il faut passer à une crainte révérentielle, qui est beaucoup plus élevée. On va avancer un peu dans les mots. Donc, Veir Aïla, ou Yere Boshet, page 238. Je suis au deuxième paragraphe. Deit Ira, Veit Ira. Il y a crainte et crainte. D'accord? Il y a une crainte, qu'on appelle la crainte du gendarme. Et il y a la crainte révérentielle. Aval bli iraklal, lo parhalela be'aval evada. Mais là, on revient à une idée très importante. Il dit, écoute, de deux choses l'une. Tu peux avoir soit la crainte inférieure, soit la crainte supérieure. Bon, pas de problème. T'es pas encore au niveau de la crainte supérieure? Crainte inférieure, pas de problème. Et peur de Dieu, comme la peur du gendarme, pas de problème. Mais il faut la crainte. Parce que, si on n'a pas la crainte, si on n'a pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu, même si on n'a que l'amour, et qu'on a un amour très puissant envers Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas tenir. Pourquoi on ne peut pas tenir? Alors là, écoutez l'image qu'il va donner. De la même façon que l'oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Hein? Ah, parce que dans la chanson, c'est. Non, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Mais là, si tu as une aile, tu peux pas voler aussi. Ah, attendez, on va. Ah, non, mais tu casses la figure. Ah, non, attendez, on va réfléchir. Si on réfléchit bien, quand on prend les deux ailes, ok? Pourquoi il y a besoin de deux ailes finalement? Pourquoi on pourra pas voler avec une aile?
Pour équilibrer.
S'appuyer sur le.
Attendez. Et si Hachem il avait fait par exemple que. Si Hachem il avait fait une seule aile en dessous par exemple, ou au-dessus.
C'est pas
le problème. Alors regardez. Est-ce que vous avez remarqué que quand on réfléchit en vérité, les deux ailes vont tirer légèrement dans une direction différente? D'accord? Une à droite, une à gauche. Toi tu crois que les ailes vont en contradiction l'une avec l'autre, parce qu'une elle tire là, l'autre elle tire là. Donc normalement. Je vous donne un exemple. Imaginez que j'ai ça, que je vais le tenir. Donc j'ai une aile qui bat vers là, donc elle pousse vers là. J'ai l'autre aile qui pousse dans la direction inverse. Donc elles se contredisent. Normalement, c'est on compliqué. Aurait dû avoir une seule aile qui va dans un seul sens. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que la base même de l'équilibre dit que, si tu veux qu'il y ait un équilibre, il faut tirer d'un côté et tirer d'un autre côté. Qu'est-ce que tu dis?
Les deux forces qui se compensent.
Exactement. Il faut une force d'un côté, une force d'un autre côté, et les deux forces doivent être à peu près égales, et c'est comme ça que les forces vont se compenser. Alors si vous voulez, nous avons ici une image parfaite pour expliquer ce que c'est la crainte et l'amour. Une personne qui va avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, d'abord celui qui n'a ni crainte ni amour, bon celui-là il décolle pas, je vais rester en bas, bon ça n'en parle pas. Maintenant t'en as un, il a que l'amour de Dieu. Donc il décolle, tu vois pas qu'il décolle, mais c'est quoi le problème? C'est que si tu décolles qu'avec une aile, qu'est-ce qui se passe avec ton oiseau?
Hein?
Il tourne en rond, il se casse la figure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas équilibré.
C'est comme le rameur.
Ah. Oui, c'est comme le rameur. D'où l'expression on tourne en rond. Non,
mais, j'ai entendu aujourd'hui qu'un avion peut voler avec un réacteur, mais pendant 3 heures seulement.
Ah oui, mais il faut les deux ailes.
Il peut avec un réacteur, mais...
La vérité, c'est qu'il y a eu un exploit qui a été fait une fois par un F-16 israélien. Mais c'était un exploit. Il a été attaqué en plein vol. Et il y a eu... Il a la moitié d'une aile qui a sauté, mais lui, il ne savait pas. Lui, il avait des capteurs qui s'allumaient, d'accord. Donc bon, et il voyait qu'il roulait toujours, donc il a continué à rouler. Il est rentré à la base, et dès qu'il a atterri, il a vu la surprise, il y avait une aile qui était à moitié. Parce qu'en fait, c'est un moteur qui est tellement puissant que la poussée du moteur a compensé le fait que le manque d'équilibre de l'aile. Mais ça, c'est très 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 gros moteur, ça. Mais normalement, un moteur normal, ça marche pas comme ça. Un moteur normal, tu as qu'une seule aile, t'as deux moteurs, mais une seule aile, tu te casses la figure. On peut compenser avec une aile. Avec les ailerons, ils peuvent compenser. Mais t'es obligé d'avoir deux ailes, c'est obligé. Pourquoi deux ailes? Parce qu'il faut un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, toi au milieu, c'est comme ça que ça tient. De la même façon spirituellement. Spirituellement, quand on avance dans la Torah, on a l'aile droite, ça représente l'amour vers Hachem. L'aile gauche, ça représente la crainte vers Hachem. Il faut l'aile droite, l'aile gauche. Si tu as une seule aile, tu peux pas tenir. Tu vas te casser la figure. Il faut les deux. Et ça, cette image, c'est le Zohar qui nous dit. C'est le Zohar qui compare l'amour et la crainte aux deux ailes d'un oiseau. Dans les mots. Kemo she'a'of eno yachol lifroach. Je suis en haut de la page 239. De la même façon que l'oiseau ne peut pas voler bekanaf echad. D'accord. Bekanaf echad avec une seule aile. Il ne peut pas voler avec une seule aile. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant parce que l'exemple de l'avion que je vous ai donné, il y a une histoire dans la Gemara. On raconte, parce que là-bas, dans la Gemara Shabbat, il y a une histoire d'un oiseau qui volait avec une seule aile. Il y a tout un développement là-bas dans Tosfot. Tosfot, les Tosafistes. Ils ont vécu en France. Ils posent la question, ils disent, mais comment l'oiseau a fait pour voler d'une seule aile? C'est pas possible. Et c'est quoi la réponse? La réponse là-bas de Tosfot, c'est qu'en vérité, c'est un oiseau particulier. Qui vole très rarement. D'accord? Vous allez comprendre tout ce pourquoi. Au moment où il décolle, il a deux ailes. Il a deux ailes. Après, à un moment, dans les airs, il perd une aile. C'est comme ça. Et il perd une aile. Et là, comme l'autre aile est large, donc il arrive à se pencher sur une aile pour réussir à atterrir. Seulement atterrir. Et ça, c'était tellement un exploit qu'on appelait cet oiseau Porachat Be'achat. Un oiseau qui était capable de voler avec une aile. Mais ça, c'est seulement parce qu'il, pour atterrir.
Il a déjà décollé.
Exactement. Alors, de la même façon. Là-bas, c'est un oiseau. La Gemara, là-bas, elle dit Porachat Be'achat, Porachat Be'achat. C'est un oiseau, apparemment, qui, quand il décollait, il démarrait avec une aile. Après, il déployait une sorte de, je sais pas, d'herba ou je sais pas ce qu'il ressortait là-bas. Après, tac, après, il la perd en vol, après, il redescend. Bon, c'est une technique qu'il avait. Un oiseau qui avait une technique particulière. Mais t'es obligé à un moment d'avoir deux ailes, si je ne viens pas. De la même façon, quand on avance dans la Torah, on va poser une question à un Baal Teshuva. On va dire, qu'est-ce qui t'a fait amener à Teshuva? Pourquoi t'as fait Teshuva? T'as un qui va dire, moi, ce qui a fait décoller mon oiseau, c'était l'amour de Dieu. Bah, j'ai eu un amour de Dieu, je décollais. Bon, très bien. T'as un autre qui va dire, moi, ce qui m'a fait décoller, c'est la crainte de Dieu. J'avais peur que ça me tombe sur la tête. Ça, c'est juste le début. Mais après, à un moment, t'es obligé, pour que ça tienne, t'es obligé d'avoir les deux ailes. L'aile de l'amour et l'aile de la crainte. Et si te manque une aile, tu peux pas, tu vas te casser la figure. Exactement ce qu'il dit ici. Des trilu urchimu entren gadfin. Car la crainte et l'amour sont comparés aux deux ailes. Kemo shekatu betikunim, comme c'est écrit dans les tikunim, dans les tikunim zohar. Alors là, c'est intéressant aussi. Parce que, l'oiseau. Est-ce que l'oiseau est en vie s'il décolle pas? Imagine un oiseau qui on lui a coupé les ailes.
Oui, il marche.
Ah, il peut continuer à être en vie?
Oui. Ah oui.
Donc finalement, à quoi lui servent? Attendez, à quoi lui servent les ailes?
À voler.
Oui. Ça veut dire qu'il peut être en vie, il peut durer des années comme ça. Imaginez qu'on lui donne à manger, etc. Il peut avoir.
Oui, parce qu'on peut faire tchouva finalement sur l'amour et la crainte.
Ah, donc, d'accord. Donc ça veut dire que finalement, on peut faire des mitzvot sans amour et sans crainte.
C'est naturel chez nous finalement de servir.
Tu as raison. C'est vrai, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire qu'une aile sans corps, ça sert à rien. Mais un corps sans aile, c'est toujours ça de gagner. Oui. Tu as un oiseau, imagine-toi, tu as un oiseau. Tu as pris que l'aile de l'oiseau, tu as pris, je dis voilà, bonjour, j'ai deux ailes. Bah, avec deux ailes, tu vas pas loin. D'accord? Par contre, si tu dis, j'ai un corps, mais j'ai perdu les ailes, on dit bon, peut-être les ailes vont repousser. Dans certains cas, ça peut repousser. D'accord? Normalement, ça repousse pas, dans certains cas, ça peut repousser. Et en plus, même si ça va pas repousser, bon, ça peut repousser, mais au moins il est là. C'est la même façon. T'as un juif qui veut faire des mitzvot. Il fait des mitzvot sans crainte, sans amour. Bon, il a fait la mitzvah. Rappelez-vous, on avait fait le cours sur ça. Mm-hmm. Mais à un moment, il faut décoller. Et quand tu veux décoller, tu es obligé d'avoir la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas faire décoller une mitzvah qu'avec l'amour de Dieu ou qu'avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il faut constamment, constamment avoir les deux. Et ça, ce principe que je vous donne, c'est un principe que d'ailleurs je lisais juste même pas un quart d'heure avant de venir ici. Et je lisais justement des écrits de Rabbi Yosef Yitzhak, de Rabbi précédent, qui parle sur l'éducation. L'éducation d'un maître par rapport à son élève, l'éducation d'un parent par rapport à son fils, l'éducation, etc. Quoi. Enfin, l'éducation en général, la relation qu'il y a avec un enfant, avec un élève, etc. Là-bas, le Rabbi Yosef Yitzhak, il dit la chose suivante. Il dit que dans la relation qu'on a avec nos enfants, dans l'éducation, on est obligé aussi d'avoir ces deux ailes. C'est quoi les deux ailes? Les deux ailes qu'on doit avoir, c'est d'un côté une aile de crainte, d'un autre côté une aile d'amour. Ça veut dire que quand vous avez une éducation qui va être basée exclusivement sur l'amour, t'as des maisons dans lesquelles il n'y a que l'amour. Et que l'amour. C'est-à-dire que dans ces maisons, on n'a jamais fait une remarque à un gosse, marbonne, etc. Tout ce que tu fais, mon fils, c'est bien. Le prof, il s'est trompé, c'est toi qui as raison, tu serais été le roi du monde. D'accord? Alors, ouais, t'es un gagnant, exactement. T'as déjà gagné, t'es un gagnant, tu iras loin, mon fils. D'accord? Laisse tomber, c'est tout des tocards, toi t'es plus intelligent. Bon? D'accord? Alors ça, c'est maintenant, tu vas dire aux parents, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que moi, je veux pas, et parce que une fois, il m'a dit, je dis, mais pourquoi tu fais ça avec ton fils? Pourquoi tu le tues, ton fils, là? Il dit, écoute, moi, j'ai souffert dans ma jeunesse, je veux pas de ça pour mes enfants. Bon, le pauvre, d'accord? Alors, attendez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as que de l'amour, l'oiseau, il se casse la figure. L'oiseau, il se casse la figure. Parce que quand tu donnes que de l'amour, tu mets trop d'un côté, ben ce qui se passe, c'est qu'il ne t'écoute plus après. Après, il se retourne contre toi. Et après, il ne t'écoute plus. Bon, c'est fini, il n'existe plus. Maintenant, tu vas dire, bon, alors, parce qu'on va passer à la crainte. Mais c'est le même problème. C'est que si tu mets trop de crainte dans la maison, la Gemara, elle raconte dans le traité Gittin, elle raconte qu'il y a une fois un homme qui a mis énormément de crainte dans sa maison. Et la Gemara, elle dit que tellement il a mis de crainte dans sa maison, qu'une fois, il a fini par manger du cochon à la maison. Vous savez comment ça s'est passé? Très simple. C'est qu'une fois, sa femme, elle est partie chez le boucher. Je sais pas ce qui s'est passé, elle était avec une voisine, elle s'est trompée de sac. Maintenant, le temps qu'elle réalise, etc., elle était en train de faire la cuisine, son mari devait arriver, elle a cuisiné, et dès qu'elle avait terminé la cuisine, etc., elle s'est rendue compte, dès que c'était presque prêt que son mari est arrivé, que c'était du porc. Elle a eu tellement... Non, mais elle était avec une copine, elle parlait, je sais pas, bon... Une histoire compliquée. D'accord? Tellement elle a eu peur de dire à son mari que le repas n'était pas prêt.
Je t'en sors un peu.
Tellement elle a eu peur de dire à son mari que c'était du porc, elle a rien dit.
Elle a quoi?
Elle a rien dit.
Le shalom mieux que la guerre. Hein.
Non, mais c'est pas. De là dit la Gemara. Après, il y a un débat dans la Gemara. La Gemara dit non, en vérité, parce que ça s'est passé avec un rave. La Gemara dit non, en vérité, il allait manger du porc, mais il s'est retenu à la fin parce qu'il a compris qu'il y avait un problème, etc. Bon, c'est une histoire compliquée, quoi. Hein.
Il a dit c'était bon, je me mets encore un peu.
Une deuxième bouche.
Ah, tout est bon dans ce genre-là.
Il y a des économies.
Et en plus, voilà, c'est le mec Nassi qui ressort. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ce qu'on apprend ici, c'est que de là, suite à cette histoire, la Gemara nous dit qu'une personne ne doit jamais mettre trop de crainte dans sa maison. Faut compenser. Regardez ce que dit la Gemara. Justement, quand je préparais le cours, alors j'ai cherché cette Gemara. Aïe. Regardez. Attendez, où est l'histoire? Ah oui, non, c'était pas là. Bon, pas grave. C'est dans une page avant. On raconte que comme ça, une personne, il a mis la crainte dans sa maison. Et à cause de ça, il a mangé pas cachère. Il a profané le Shabbat une fois. Sa femme profanait le Shabbat, d'accord? Et il allait arriver au meurtre. Parce qu'il a mis tellement de stress à la maison que c'est le feu. Alors comment tu fais? Ben c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Quand tu vas avoir un avion équilibré, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois avoir du chaud, du froid. Tu dois avoir de la crainte, de l'amour. Les deux. Si t'as, et il faut apprendre constamment à doser entre les deux. Alors compenser, c'est pas compliqué, c'est pas simple, il faut compenser. D'ailleurs, au passage, est-ce que vous savez comment on fait décoller un avion? C'est l'air qui comment ça marche? Ah, voilà. Comment ça marche?
D'où
vient ce phénomène de portance?
C'est l'arrondi derrière au-dessus qui fait passer l'air plus.
Donc, mais ça veut dire que c'est une question d'équilibre. Il y a tout le temps de l'équilibre. Il n'y a que de l'équilibre. C'est que l'équilibre qui fait. Il y a une histoire d'air chaud, d'air froid, et que l'aile, elle est arrondie, mais qu'elle est plate en dessous, donc ça fait. Mais il n'y a que une question d'équilibre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'équilibre, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Alors, l'avion, c'est un exemple. De la même façon que ton avion, s'il n'a pas d'équilibre, il ne peut pas tenir, et bien de la même façon, quand tu éduques un enfant et quand tu t'éduques toi-même par rapport à Kadosh Baruch Hu, si tu n'es pas équilibré, tu te casses la figure. Il faut être équilibré, il faut avoir de l'amour et de la crainte envers Kadosh Baruch Hu. Il faut les deux, de l'amour et de la crainte envers Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit ici. Vechen Aïra Levada, je reprends les mots maintenant. Vechen Aïra Levada. Maintenant, on va prendre, il dit, mais attends, quand même, c'est fort ce que tu me dis. Imagine-toi une personne qui n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour pour Dieu, mais il a la crainte. Il sert Dieu comme un âne, comme un serviteur. Ah, il rate pas une mitzvah. Toutes les mitzvahs, il les fait. Ah, il décolle pas celui-là. Attends, dis-moi, c'est le chaouche de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Il fait tout ce que Dieu lui demande. Pose pas de questions. Ah, c'est vrai qu'il a pas sorti, non, mais il fait tout. Il a pas raté une mitzvah, il a pas fait une avéra, il a rien fait le bonhomme. Il décolle pas? Non. Dis-le de Morazaken. En page 239, Vechen Aïr Alevada, de la même façon, la crainte seule, l'amour seul, c'est une aile seule. La crainte à elle seule, Ikna Fechad, c'est aussi une seule aile. Velo Parhaba Le'ela, je suis à la page 239, hein, deuxième paragraphe. Velo Parhaba Le'ela, et avec une seule aile, on ne peut pas monter en haut. Ça décolle pas. Av Shenikret Avodat Aved, bien que bon, très bien, c'est appelé le travail d'un serviteur, que c'est magnifique, etc. Mais tu peux pas décoller. Vetzarich Liot Gamken Prinat Ben, il faut avoir aussi en soi le niveau de fils. Rappelez-vous, le niveau de serviteur, le niveau de fils. Leorer Ava Tivit Al Kolpanim Sous Teret Belibo, J'étais Beit Galut Moro Al Kolpanim. Voilà, c'est très simple. Il te dit de la même façon que sans crainte, on peut pas décoller vers un Kadosh Baruch Hu. Sans amour, on peut pas aussi décoller vers un Kadosh Baruch Hu. Tu es obligé d'avoir constamment les deux. Et là, il va nous donner une technique maintenant. Il va nous expliquer quelque chose de très simple. Il dit, avant de faire une mitzvah, je m'apprête à faire une mitzvah, je m'apprête à faire la prière. À quoi je pense? Je me prépare. À quoi je pense à ce moment-là? Non, mais c'est une question sérieuse que je vous pose. Ce soir, même demain matin. Je me prépare à faire la prière. Mis à part l'aspect technique, j'ai mis les tefillines, bon, etc. Ça, c'est d'accord. Quand je me prépare, je pense à quoi? Est-ce que je pense qu'à la crainte de Dieu ou à l'amour de Dieu? L'Admor HaZaken te dit, t'es obligé, dans ta pensée, d'avoir les deux. Ça veut dire, d'un côté, de penser à quel point Kadosh Baruch Hu est très grand, et à quel point il faut le craindre, et que c'est un moment sérieux, la tefila, c'est pas de la blague, on n'est pas venu pour rigoler. Mais d'un autre côté, il faut que tu sentes aussi te rappeler que Dieu, il veut ton bien, et que Dieu, il est gentil. C'est quand la dernière, quand vous pensez à Dieu, vous savez, j'ai fait un sondage, ça fait quelques semaines, j'ai posé la question à quelques personnes, je leur ai dit, quelle est la première image qui te vient à l'esprit quand tu parles de Dieu? Ah, la peur. Je dis, mais est-ce que tu t'es conscient que Dieu, il t'aime? Ah bon, Dieu, il m'aime, ouais, peut-être, certainement. Dieu, il t'aime. T'aime Dieu. Hachem, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime comme un père, il aime son fils. Bah, il pense pas à ça. Souvent, il n'y a pas cette relation d'amour. Te dis, l'Admor HaZaken, chaque fois que tu fais une mitzvah, il faut développer cette double relation avec Hachem. D'un côté, la crainte, peu importe le niveau de crainte, soit la crainte inférieure ou la crainte supérieure, la crainte du gendarme ou la crainte révérentielle. Mais il faut aussi l'amour. Il faut sentir que tu aimes Hachem. Se rappeler que Hachem, il est gentil. Que Hachem, il est gentil avec moi et que c'est quelqu'un que j'ai envie d'aimer. Maintenant, comment on aime quelqu'un? Dites-moi comment vous faites pour aimer quelqu'un.
Alors, à ce qui paraît, hein, quand Dieu aime, enfin, il envoie des épreuves.
Non, attendez, répondez à ma question d'abord. Comment je fais pour aimer quelqu'un?
Tu le trouves sympa?
Comment je trouve sympa?
Trouver des points communs.
Aimer quelqu'un, c'est pas aimer pour ce qu'il aime.
Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas? Attendez. Pourtant, la même personne que moi, je n'aime pas, t'as une autre personne qui, lui, va aimer cette personne. C'est pas de toi que je parle, hein. D'accord? Qui va aimer cette personne. Et que la personne que moi j'aime, il la supporte pas. C'est très simple, je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce qu'en vérité, chacun de nous a des qualités et des défauts. D'accord? Chacun de nous a des qualités et des défauts. Et automatiquement, les défauts qu'on trouve chez les gens nous dérangent. Ce que moi je considère être un défaut, ça me dérange. Et ce que moi je considère être une qualité, d'accord, ça m'arrange. Maintenant, quand je trouve des qualités chez une personne qui m'intéresse, même si au fond de moi je sais que cette personne-là a des défauts, mais comme les qualités m'intéressent et me parlent, donc ça compense les défauts, et donc les défauts ne me dérangent plus. Je ne sais pas quels les défauts, je sais quels les défauts. Vous savez, c'est quoi le meilleur exemple? C'est nous-mêmes. Je m'aime. D'accord? Vous vous aimez. Et si ce n'est pas le cas, il faut consulter. On s'aime, d'accord? Pourquoi je m'aime? Pourtant, moi je connais mes défauts mieux que personne ici. Mieux que personne. Mais pourquoi je m'aime? Parce que comme j'aime mes qualités, donc ça compense mes défauts. Je m'en fiche des défauts. D'accord, attendez. Déni, attendez. Non, c'est pas le déni. Non, c'est pas le déni. C'est pas le déni. Alors, donc ça veut dire quoi? Non, mais attendez, écoutez bien. Ça veut dire que d'où vient l'amour et d'où vient la haine? L'amour, c'est quand j'aime les qualités de quelque chose. Et la haine, c'est quand je n'aime pas les défauts. Donc, quand par exemple, je trouve un défaut chez quelqu'un qui me dérange beaucoup, même si je suis conscient qu'il a des qualités, mais ce défaut me dérange tellement qui prend le contrôle de la personne, et que du coup, quand je vois cette personne, je vois ça. Ça, c'est comme un exemple. Quand vous rentrez, par exemple, dans un plateau télé. Vous rentrez dans un plateau télé, vous avez, je sais pas, 50 télévisions. Qui ont les télévisions du monde entier. Bon, il y a 50 télévisions. C'est-à-dire, tes yeux peuvent capter 50 télévisions. Maintenant, il y a forcément un écran qui va capter ton regard. Et comme ça. C'est pas pourquoi, peut-être c'est une couleur, il y a un truc. Et celui-là, pourtant il y en a 50, il y en a 49 autour. Hein. Celui-là, il va capter ton regard, du coup tu vas regarder celui-là. Ben, c'est la même chose. Quand on voit une autre personne, on a tous des défauts et des qualités. Mais des fois, on voit une qualité tellement importante chez quelqu'un qui nous fait plaisir, que du coup je vois que la qualité, j'ai rien vu d'autre. Mais d'un autre côté, quand des fois je vois un défaut qui me dérange fortement chez quelqu'un, je vois que le défaut. C'est un défaut humain, ça, de nous concentrer sur quelque chose. Alors voilà, maintenant je reviens à la question. Comment on fait pour aimer? C'est très simple. Il faut essayer de se concentrer sur les qualités de quelqu'un. Cette personne-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que ça. Non, David, parce que dire ça, c'est un affront à Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a créé un bonhomme qui sert à rien. Celui-là, il sert à rien.
Mais comment on fait, par exemple?
Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème,
ça n'existe pas. Dieu, chaque personne qui a été créée, il sert à quelque chose. Il y a une utilité et il a une qualité.
Chaque personne, il a une personnalité. Il y a quelque chose qui dégage plus. Si c'est une qualité, mais si c'est un défaut, tu vois.
Mais qui.
Après, nous, il faut qu'on cherche.
Deux secondes. Comment tu définis que c'est un défaut? Comment
parce que ça ne me convient pas, donc c'est un défaut.
Ah, donc ça ne te convient pas. Mais ce que toi, tu considères être un défaut, pour une autre personne, ça peut être une qualité.
Ah oui. T'as compris, mais il faut aller chercher derrière après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se fatiguer, aller chercher derrière. On voit, comme t'as dit, on va voir
ce qui nous intéresse.
Pas ce qui nous intéresse.
Donc comment tu fais pour aimer quelque chose? Pour aimer quelque chose, il faut te concentrer sur les qualités des choses. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu.
Des fois, il est.
Pourquoi la seule relation qu'on a avec Akadosh? Je termine avec ça après la question de Galo. Comment ça se fait que la seule relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation de crainte? J'ai peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas aux qualités de Dieu. Quand tu réfléchis à ses qualités, Kaviachos, si on peut s'exprimer comme ça, tu dis, mais tu t'imagines, avec tous les écarts qu'on a fait, etc., il continue à être là, à s'occuper de nous. On est le seul peuple qui est resté là depuis. D'accord? Et il s'occupe de nous, et il nous aime. Donc automatiquement, tu vois une qualité, donc tu te mets à aimer à Kadosh Baruch Hu. Parce que la seule façon d'aimer quelque chose, c'est de penser à ses qualités. Si tu me présentes un produit, comme tu dis, voilà, on va te présenter un produit, il s'appelle le Coca-Cola. D'accord, imagine le premier qu'on lui présente le Coca-Cola. Hein. On dit, voilà, c'est un truc qui est noir. Tu dis, noir, c'est quoi ce truc-là là? L'eau, c'est blanc, c'est limpide, ça. Non, mais c'est regarde, tout goûte, ça, c'est pas mal, c'est du Coca. C'est quoi ça? Ah, c'est une plante, je sais pas, on a fait un truc avec une plante. Tu sais, c'est quoi cette histoire? En plus, on a mis du gaz, tu vois, ça saute. Ils sont fous, ceux-là, ou quoi? Une eau qui saute noire. Ils sont fous? Tu dis, attends, goûte. Ose. Goûte.
D'abord.
Ah, quand tu vas goûter, on t'explique. Ça, c'est comme ça, c'est la caféine, etc. C'est différent. C'est la même chose. Ça veut dire que pour aimer quelque chose, il faut apprendre ses qualités.
Il faut connaître.
Comment tu veux l'aimer si tu le connais pas? Tu peux pas l'aimer si tu le connais pas.
Goûter d'abord.
Et c'est pour ça que, rappelez-vous, le cours que j'avais fait, ça fait trois mois, quand j'avais parlé des gens, ils parlent d'aimer une femme. Mais aimer une femme, c'est pas être attiré par elle. Parce que dans ce cas-là, c'est quand t'es attiré par elle, t'es pas contre ses qualités, c'est que juste c'est une attirance animale, et ça s'en va, ça. Ça reste quelques semaines, quelques mois, c'est fini après. Le vrai amour, c'est quoi? C'est quand t'es conscient des qualités de quelqu'un. C'est là que tu apprends à l'aimer. Ça prend du temps. trouver les qualités de quelqu'un, d'apprécier les qualités de quelqu'un. Non, mais c'est vrai.
C'est pour ça qu'on
d'apprécier les qualités. Et ben c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ils appellent ça apprendre à aimer. Donc c'est le pshat de Ahavat Hashem, Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu, c'est réaliser que Dieu peut me frapper ou que j'ai honte de Dieu. Ça c'est un premier niveau. Mais il y a un deuxième. Il y a Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Et la seule façon d'aimer Hashem, c'est quoi? C'est de penser au fait que Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a des grandes qualités, et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien, et qu'il veut que mon bien. Quand tu penses à ça, automatiquement, tu kiffes Hashem, tu le kiffes, tu dis, mais je t'aime Hashem. Mais il faut les deux. Il faut d'un côté aimer Hashem, d'un autre côté le craindre. Et c'est seulement comme ça qu'on peut avoir l'équilibre. Si on n'a pas l'équilibre, on se casse la figure. Mais nous, Bezrat Hashem, on a l'équilibre, on a ce qu'il faut, donc ça peut tenir. Bezrat Hashem, maintenant. Ah, allez-y.
Comment qu'on peut aimer quelqu'un,
oui,
qui sait, quand c'est pertinemment, qu'il a de la haine pour nous?
D'où vous savez qu'il a de la haine pour vous?
Si, par exemple, je vais prendre un exemple, bon, pas pour parler plus de ça. Par exemple, il y a une grande artiste égyptienne, où il y a eu des juifs, je regardais le reportage, et moi j'adore, Oum Kalsoum, quand elle était la voir, alors qu'elle a chanté trois jours avant, il y avait 1 million de personnes au Caire, il faut égorger les juifs, il faut tuer les juifs, et il y a des juifs qui ont déboursé des milliers de francs pour aller la voir. Donc je connais des gens. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient cette personne-là. Alors comment elle peut empêcher ça?
Non, ils n'aimaient pas au sens... ils appréciaient sa musicalité, son côté artistique.
Donc ils aimaient ses qualités.
Oui.
Et ils aimaient tellement sa qualité musicale que pour eux, ça couvrait le défaut d'antisémitisme. C'est la vérité. C'est exactement comme l'amour qu'on a envers nos enfants.
Mais
ils ont des défauts comme nous avons des défauts. Mais l'amour qu'on a envers eux couvre les défauts. Ça couvre les défauts. Comment il définit ça, le roi Shlomo HaMelech, le roi Salomon? Il dit Al kol pshaim techase ahava. Sur toutes les fautes couvrira l'amour. L'amour couvre tous les défauts. Comment il y a un dicton qui dit, bon, il est méchant ce dicton. Il dit l'amour rend aveugle.
L'amour est aveugle.
Et le mariage rend la vie.
Vie.
Mais bon, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est le contraire.
Je pense que c'est l'amour rend aveugle et le mariage.
Non, l'amour est aveugle.
Et le mariage apprend à voir. Et le mariage apprend à voir.
Oui. Il a rendu la vue.
Pourquoi tu veux être aveugle? À voir. Regarde. Analyse les qualités, tu vas kiffer. Pas chercher les défauts de Shalom. Faut toujours regarder les qualités.
Juste pour revenir à cette notion d'aimer. Enfin, moi, j'ai fait pendant des années du commercial où des fois vous rencontrez des gens, vous les connaissez ni d'hab ni
d'hab,
mais vous avez ils vous laissent une mauvaise impression.
Il y a quelque chose qui est énergie négative.
Des fois, ça m'arrivait d'avoir des a priori sur des gens ou sur des clients ou des futurs clients. Celui-là, je le sens pas.
On sent une énergie négative.
Effectivement. Et puis. Des fois, au fil d'une discussion,
c'est le meilleur.
Vous rentrez un peu dans le personnage ou dans l'histoire du bonhomme,
c'est vrai.
Et vous apercevez que le mec, eh ben, finalement, il n'est pas si con que ça. Il est même plutôt super sympa, voire super agréable, ou qu'il a vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui, ça lui a donné ce côté peut-être un peu plus renfermé. Donc, des fois, on a des a priori, mais ce que je veux dire, c'est que, et ça revient à ce que vous dites, c'est que. C'est par la connaissance qu'on arrive à aimer ou apprécier les choses.
Ah oui,
il faut connaître.
Mais comment on peut connaître?
Et comment connaître? Mais
il faut penser à ses qualités. Pensez aux bienfaits qu'Hachem vous donnait.
Parce que tu es rentré dans son
cœur. Je te lève le matin.
C'est un hasard de discussion.
Ça, c'était le thème qu'ils ont fait cette année au Gan Israël. Un très bon thème, je trouvais. Le thème qu'ils ont fait cette année au Gan Israël, pour tous les Gan Israël. Ils leur ont fait un thème avec un programme, tout un programme autour de ça, sur l'importance de remercier Hachem pour ce qu'on a.
Oui, voilà.
Ah oui.
Ils ont appris aux enfants, et j'ai vu, ils me l'ont répété, ils ont appris aux enfants à apprécier les 5 sens.
La santé.
Les 5 sens. Et j'ai fait le test avec mes enfants, tu vois, genre moi, tu veux regarder, tu touches, tu sens, et je lui explique. Je lui explique, j'ai rencontré quelqu'un qui était déprimé parce que ça fait 4 mois qu'il a perdu, il a perdu le goût. Et on a même pas idée ce que c'est perdre le goût.
Ah, bah, tiens.
Ah,
c'est un
drame, hein.
Il y a
d'autres
trucs qui
a plus le goût. Ah, bah oui. C'est un exemple, c'est que le goût.
Et le goût,
d'ailleurs, en français, on dit perdre le goût. On dit j'ai plus le goût à rien. Plus le goût à rien. Plus le goût à la vie. Le goût.
La maladie.
Bien sûr.
La maladie.
Les gosies. La gosie ou le gosie.
Hein?
Ouais. Bon. Mais plus sérieusement. Plus sérieusement. Voilà. Je voudrais juste conclure ce qu'on a étudié aujourd'hui. D'accord? Comme ça, on résume ce qu'on a étudié en 2 minutes. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans le 5e cours sur le chapitre 41, on a expliqué la chose suivante. On a expliqué qu'il y avait 2 catégories de craintes. Voilà, ça, on a passé longtemps dessus. deux catégories de craintes. Il y a une crainte, et d'ailleurs c'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, le grand maître, avait dit à ses élèves. Il leur a dit, je vous souhaite d'avoir la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Mais ça, on a dit, c'est la crainte inférieure. Ça, c'est la crainte qui est une crainte du gendarme. Après, il y a une crainte plus élevée que ça, qui est la crainte, pas du gendarme, mais la crainte révérentielle. Comme on n'a pas envie de décevoir. Pas envie de décevoir à Kadosh Baruch Hu. Après, on s'est arrêté longuement pour expliquer que Yerushalayim, c'est quoi Yerushalayim? C'est Yira Shalem. C'est la perfection de la crainte. Ça veut dire, c'est la crainte niveau numéro 2. La crainte, j'ai honte devant Hachem. C'est pas une crainte, j'ai peur qu'il me frappe, j'ai honte devant Hachem. Et qu'on a expliqué qu'à l'époque du Beit HaMikdash, que Bezrat Hachem, il arriverait très très rapidement. Et ben, à l'époque du Beit HaMikdash, toute personne qui à peine rentrait à Jérusalem, tout de suite, il était recadré. Tout de suite. D'accord? Yerushalayim, il avait la Yirat Hachem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, on a expliqué qu'avec tout ça, même si une personne qui a une crainte de très haut niveau, une crainte supérieure, il ne pourra jamais se suffire que de crainte. Il faut toujours avoir la crainte et l'amour. Parce que si on n'a pas, s'il nous manque une des deux ailes, qu'est-ce qui se passe? On se casse la figure, ça ne peut pas tenir. Et même s'il fait s'il a un amour absolu pour Hachem, il se casse la figure. Même s'il a une crainte comme un esclave pour Hachem, il rate pas une seule mitzvah. Il fait pas une seule avéra. S'il n'a pas l'amour et la crainte, il va se casser la figure. On est obligé d'avoir l'amour et la crainte. Comment on développe la crainte? En pensant au fait que Dieu est partout, donc automatiquement, comme a dit Rabbi Yochanan, il pense que Dieu il est là comme un homme à côté de toi. Et comment on développe l'amour d'Hachem? En pensant aux qualités d'Hachem, à quel point Hachem, il est gentil. Et d'ailleurs, je donne une technique. Regardez. Pour l'amour d'Hachem, je termine avec ça. Justement, dans le programme du Gan Israël, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Et leur ont parlé aux enfants de l'importance du Modéani. Modéani. Apprendre aux enfants, parce que moi, Modéani, les enfants, ils le disent comme ça, mais ils comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Apprendre à un enfant, expliquer ce que c'est le Modéani. C'est quoi le Modéani? Qu'est-ce que tu dis quand tu dis le Modéani? Tu dis, tu es en train de remercier Dieu. Pourquoi tu le remercies?
Parce que tu as envie, tu te réveilles.
Pourquoi tu le remercies? Ça veut dire que, mais il faut comprendre ça. Tu le remercies, tu lui dis, oh, regarde, il y a des gens, il m'a redonné la vie. Je suis parti dormir, j'étais HS, je me lève, je suis bien. Il y a des gens qui ne sont pas levés. Moi, je me suis levé, Baruch Hashem. Je suis en forme. Il faut remercier Hashem pour ça. Il faut comprendre, il faut apprécier les qualités d'Hashem. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Il faut apprécier chaque chose. Chaque chose. Le fait qu'on peut marcher, qu'on puisse. Et ça, c'est les brachot du matin. On remercie Hachem. Et quand tu remercies Hachem, tu apprends à l'aimer. Tu dis, mais merci Hachem. Tu me permets de respirer, tu me permets de marcher, tu me permets d'habiller, tu me permets de manger, tu me permets de boire, tu me permets d'être un juif. Tout ce qu'on dit dans les brachot du matin. Juste, tout simplement, aller aux toilettes. Aller aux toilettes. Il n'y a rien de normal. Tout est un cadeau d'Hachem. Il faut remercier ce cadeau d'Hachem. Et quand tu réalises que Dieu fait que te donner des cadeaux, tu peux pas ne pas l'aimer. Imaginez quelqu'un qui est là, un bienfaiteur qui est là, il n'arrête pas de donner des cadeaux. À longueur de journée. Tiens mon fils, tiens mon fils, tiens mon fils, tiens mon fils. Comment tu peux ne pas le kiffer? Tu le kiffes? Ça c'est Hachem. Ahava veira. L'amour et la crainte. Nous on va travailler sur les deux. Et Bezrat Hachem bien équilibré. Et quand on va équilibrer comme il faut, on va décoller. Et là, le ciel est la limite.
Il n'y a plus de limite.
Hein?
Il n'y a plus d'atterrissage.
Pourquoi tu vas atterrir? On atterrit pour chercher de l'essence.
Pour un ravitaillement.
Tu as parlé de Modéani. C'est la seule phrase dans toute la liturgie où il n'y a pas.
Comment l'avion explique qu'il décolle?
C'est pas une bénédiction avec
le nom de Dieu.
C'est
fait exprès.
Ou
ça, on peut le lire sans avant que ça avait les mains.
Voilà.
C'est le réacteur qui le pousse.
Et il y a trois bénédictions dans les dix qui sont liées au temps uniquement. C'est les trois